Session de philosophie sur la contemplation par le père Marie-Dominique Philippe et le père Gouthière à Rimont le 23 mai 1998, quatrième conférence.
pour nous. Paraclet. Très curieux. Intéressant. Et Jésus l'a employé sous le soupe de l'Esprit Saint. Et Saint Jean nous l'a rapporté. Et nous devons être attentifs à ça. C'est très intéressant. Quand on étudie un auteur philosophique ou un auteur spirituel, comme pour un artiste, parce qu'il y a un art pour les mots, c'est pas naturel. On a appris une langue, on la connaît plus ou moins bien. Et il y a tout un aspect artistique. Quand il y a un nouveau mot, c'est pour une nouvelle communication. C'est très, très important, ça. Alors, c'est en repensant la scolastique, en repensant la manière dont Thomas d'Aquin utilise Aristote, la manière dont Aristote, tout en respectant son maître, Platon, a eu l'audace et la grandeur de repenser tout un cheminement philosophique.
Religieuse appelle les
Dieu, amour. Il est nécessaire qu'il existe une vérité première qui soit identique à son être. Je suis la vérité. Selon les traditions. C'est un effort de l'intelligence tellement fort qu'il faut comme un renouveau d'amour pour la vérité. Et pour cela, il faut partir d'une expérience d'amour. Personnellement, j'ai été toujours très gêné de la manière dont la scolastique classique, que saint Thomas n'a pas inventé, lui, il a une scolastique différente. Mais je parle de la scolastique thomiste. Des fruits très grands, hein, jeune saint Thomas, franc-comtois, espagnol de ce temps, est devenu français par sa mort, ou après sa mort. Jeune saint Thomas, qui a toute l'ardeur espagnole, et qui fait un peu craquer la scolastique. Et qui reste un très grand scolastique. Mais je parle de la scolastique décadente surtout. Pratiquement l'aspect logique domine. À tel point que je connais quelqu'un qui est vraiment, avec un grand amour pour saint Thomas, n'hésite pas de dire que si on me donnait à choisir une partie de la philosophie, en abandonnant les autres, je choisirai la logique. Ce qui prouve la dégradation de la philosophie, puisque la logique n'est pas une philosophie, elle est un art très curieux, ars, artium. Comme dit Thomas d'Aquin, elle n'est pas une sagesse. La logique ne me sert que comme un instrument. Donc en la dépassant, il faut tout de suite la dépasser. Elle ne sert qu'en mourant. Un serviteur merveilleux, très docile. Et nous devons aujourd'hui plus jamais, surtout si nous sommes chrétiens et catholiques, comprendre que les voies d'accès à l'existence de Dieu ne sont pas des preuves au sens scientifique. Sont des démonstrations a posteriori, c'est-à-dire très imparfaites, parce que c'est la démonstration parfaite qui est a priori et qui donne une connaissance scientifique rigoureuse. La scolastique décadente a joué un très mauvais rôle. l'existence de Dieu selon un mode géométrique, mathématique, donc absolument rigoureux. C'est faux, ceci. On voudrait, voyez, toujours posséder l'intelligence de ce qui nous dépasse complètement. C'est par la foi, et par la foi seule, que j'adhère directement à l'existence de Dieu. Un croyant dit « Dieu existe ». Je crois en un seul Dieu, le credo que vous récitez tous les dimanches. Je crois en un seul Dieu. Le philosophe sait qu'il n'a aucune expérience directe, humaine, de l'existence de Dieu. Mais il sait aussi que l'expérience qu'il a de sa propre existence, que l'expérience qu'il a de son amour d'amitié, de l'expérience qu'il a des réalités qui existent et qui ne sont pas lui. Sont toutes dépendantes d'un être premier. Alors on passe de la constatation de ces réalités à leur source. On a tous été, quand on était jeune, avec une petite baguette de sorcier, découvrir les sources cachées, mais qui répondaient à la petite baguette qu'on a senti, qu'on avait beau serrer, puis tout, ça se lève. Et tiens, il y a quelque chose. Et avec certaines habitudes, on est arrivé à préciser même la profondeur de la source. Dieu se découvre comme une source cachée, la source de l'être, la source de l'amour, la source du bien, la source de la vérité, comme une source. Alors, il y a comme un bond entre ce que j'expérimente et ce que j'induis. Vous voyez, pour que l'intelligence puisse, par elle-même, c'est-à-dire par ses expériences, et réfléchir sur ses expériences, il faut qu'on puisse unir l'exister, le fait d'acte l'être, j'existe, et la nécessité. Dieu ne se découvre que dans une nécessité existentielle, mais existentielle, pas dans le sens existentiel moderne, mais dans le sens d'une réalité qui existe, qui est. C'est pour ça que seul Dieu peut dire « je suis ». Quand vous dites « je suis », vous avez le droit de le dire. Et vous avez le droit de le dire que vous êtes seul à pouvoir dire « je suis ». Mais vous savez très bien qu'en disant « je suis », l'autre à côté de vous dira avec une voix de tonnerre « seul je suis ». Vous n'excluez pas l'existence de votre voisin. Et et pourtant, vous savez que votre exister ne vient pas de lui. Faut lui dire, dans l'ordre de l'exister, pour rien. L'artiste crée des relations, mais ne crée pas une nouvelle existence d'une réalité qui jusque-là n'existait pas. L'artiste peut créer de nouvelles relations, de nouvelles harmoniques. Et c'est là le génie de l'artiste. De faire ça. Dieu est l'artiste des artistes. Et lui, quand il crée à partir de rien. Demandez à un artiste de créer à partir de rien. Il vous dira, j'ai essayé. Et puis je n'ai pas. Moïse et Michel-Ange, quand il a terminé, frappé sur ses pieds, il dit maintenant vie. Et l'ordre n'a pas eu de finalité. Il a été vain, sans résultat. Hitler, à la fin de sa vie, quand il a vu que la défaite arrivait, s'il avait pu philosophique de tout être intelligent. Et c'est Thomas d'Aquin qui donne ça à la suite d'Aristote, mais le donne comme un directeur merveilleux de l'intelligence. Il dit ceci, les réalités qui sont sont supérieurs à moi. Il vaut mieux les aimer que les connaître. Parce que par amour, je peux m'approcher d'elles plus que par ma connaissance. Les réalités qui sont inférieures à moi, le petit toutou, le petit chat, on a tous remarqué que quand on aime trop un chat, au bout d'un certain temps, on a la physionomie du chat. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça. Quand on était gosse et qu'on prenait le train, et que les trains étaient moins rapides, alors on avait davantage le temps d'observer. On a tous tombé sur des braves personnes avec leurs petits chats. Ils regardaient les chats, ils regardaient la tête. Il y avait une similitude. Alors on n'osait pas le dire, mais quand même. Et on essayait de faire sauter le chat pour voir si il y avait la même chose. Et là, ça s'arrêtait. Les réalités inférieures à nous, il vaut mieux les connaître que les aimer trop. Ça va très loin, ça. Quand il s'agit de Dieu. C'est par l'amour que je m'approche plus de Dieu que par ma connaissance. Mais si ma connaissance ne suit pas mon amour, l'imagination, la passion passera devant. Je tomberai dans des erreurs par rapport à Dieu. Le philosophe sait cela. Alors, il cherche le moment dans sa vie intellectuelle, dans sa vie humaine, le moment où l'intelligence et l'amour sont le plus unis. Faites cette recherche. Tout le monde peut faire cette recherche. Ça dure un certain temps. Mais c'est bon. Bien. Le moment où l'intelligence et l'amour spirituel est le plus uni, c'est dans le choix d'un ami. Je t'aime. Mais au sens très fort de l'amitié. La philia grecque. Je te choisis pour être mon ami. Voyez, si ceci est vrai, ce que je crois, ce que je suis même persuadé, alors si vous trouvez autre chose, vous le mettrez. Hein. Puis je vous dirai, je peux le dire d'avance, que c'est faux. Je parle au point de vue humain, je parle pas de la foi, je parle pas de l'expérience mystique qui vient de la grâce. Je parle de ce qui relève de mon expérience humaine. Je peux dire même à quelqu'un, c'est du reste que je fais toujours, quand je rencontre quelqu'un qui me fait profession d'athéisme, un marxiste ou un scientifique positiviste pur, je lui demande, est-ce que c'est pas trop indiscret de vous demander si vous aimez quelqu'un dans votre vie? Alors s'il n'est pas trop durci, il dira en souriant, mais c'est évident, j'ai des amis. Ah, très bien, je suis sauvé. Vous avez des amis? Ah, j'ai des enfants que j'aime beaucoup. Ah, tant mieux. Continue à les aimer. Je ne discute pas sur l'athéisme. Ça vaut pas la peine. Il suffit de mettre une allumette que ça brûle. Non. Mais je discute pour réveiller le cœur humain. La courbe des athéismes diminue en fonction de la misère, en fonction du manque d'amitié, du manque d'amour.
D'une certaine manière.
péril de parler choses éternelles dans le temps. J'avais le professeur Lévinas à côté de moi parce qu'il était d'une extrême politesse vis-à-vis des religieux. Il me connaissait, il savait bien que j'étais partisan d'Aristote et pas de la philologie. Il était très heureux qu'on se ressemble comme ça, à côté de l'autre. Et alors, j'ai développé ça. Je voyais qu'il remuait constamment. Alors, il y avait celle qui organisait, qui passait par derrière. Alors, je lui ai dit, je voulais demander un petit service. Je lui ai dit, je vais pas trop loin. Non, allez-y. Mais vous touchez le point névralgique de Lévinas. Vous dites ce qu'il aimerait dire, mais qu'au nom de sa méthode, il ne dit pas. J'ai trouvé ça très juste. Du reste, sa disciple n'était pas du tout féminologue au sens rigoriste, au sens de fidélité à une méthode. Vous comprenez, l'ami, en tant qu'il existe, est source de mon amitié. C'est sûr. Et quand j'ai atteint quelque chose en lui de radical, sa personne humaine, je peux dire son âme spirituelle, même s'il meurt, il reste mon ami. C'est sûr. Et maintenant, Lévinas, j'en suis sûr et d'accord, que la méthode restreint la liberté de la recherche d'une canalisation. J'ai vu dans le Valais, en Suisse, progressivement, j'ai vu leur canalisation. La canalisation d'une méthode, c'est très important, une méthode pour des recherches. Mais attention, pour ce qu'on atteint que par des documents, c'est différent que ce qu'on atteint directement. Une grande amitié pour Aristote. ne sert rien. Disait ceci et ceci, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que pour Husserl, c'est la mise entre parenthèses de et. N'oubliez pas qu'Husserl a fait son doctorat en mathématiques. Et puis il est devenu après un méta-mathématicien. Et on a fait de ce méta-mathématicien un philosophe remarquable. C'est vrai, il a une logique merveilleuse et intéressante. La mise entre parenthèses, si vous mettez entre parenthèses, le passé. Mise entre parenthèses, c'est ce qu'on fait, le feu rouge. On met entre parenthèses la route. Mais quand, comme on est réaliste, on dit que c'est pas la même chose quand il y a le feu rouge ou le feu vert. Ceci. Si, alors, s'il n'y a pas, si je ne suis pas husserlien, si j'essaie d'être réaliste, ceci est, n'est pas la même chose que ceci. Ceci relève tout simplement d'une appréhension. Ça peut être cette table, ça peut être moi, ça peut être n'importe quelle réalité. C'est une réalité reste.
Petite erreur, mais c'est capital.
Dieu pour mon ami. Il est vivant en moi. Mais il n'est pas l'existé de mon ami. Il est relatif à l'ami. Et ça, c'est très important. De sorte que aujourd'hui, la première voie pour découvrir l'existé de Dieu, l'existé d'un être au premier, d'un être en qui l'existé et la détermination s'identifient. Dieu ne peut pas disparaître s'il est Dieu. Saint-Anselme avait très bien compris ça. Dieu, c'est Dieu, l'être premier. En lui, une simplicité absolue. Il existe nécessairement. Il faut dire, si Dieu existe, il est l'être absolument simple. Et comment découvrir qu'il existe? En partant de l'expérience d'amitié. Et en éclairant cette expérience d'amitié, en liant cette expérience à l'existé de l'ami, et en éclairant cette expérience de la découverte du principe de finalité, tout ce qui est imparfait est relatif au parfait. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Tout. Même l'amour que j'ai pour mon ami, qui pourtant m'apparaît comme n'ayant pas de limite, il est dépendant de l'existé de mon ami. Et donc, si tout ce qui est limité est ordonné à quelque chose de premier, l'amour que j'ai pour mon ami implique un premier être qui est l'ami, qui est Dieu. On reviendra là-dessus. Aristote ne dit pas ça tout à fait comme ça, mais presque. Parce qu'il dit qu'il y a un premier aimable qui est source de tout amour. L'amabilité de l'ami qui m'attire et qui est source pour moi d'amour m'exige, parce qu'il est limité et qu'il est. Il existe, et il est limité, et il porte en lui quelque chose d'absolu. Nous portons en nous quelque chose d'absolu. L'amour ne demande pas d'être limité. Quelqu'un qui dit, ah mais l'amour demande d'être limité, et je dépasse cette limite. Mais non, c'est plus l'amour. Quand on dit que l'amour est extatique, on peut montrer justement qu'il n'est pas limité, et qu'il éclate. Il existe. C'est la coexistence d'un absolu et de sa limite qui m'oblige d'opposer existence à Dieu. Coexistence existentielle. L'amour que j'ai pour un ami qui existe et que je vois que je suis dépendant de lui tout en étant de plus en plus autonome, je choisis librement. J'ai quelque chose de supérieur, l'amour. le choix que j'ai pour lui. Et je suis dépendant de lui. Comment cela peut-il coexister s'il n'y a pas un premier être qui, lui, n'est qu'amour? Voyez l'importance du moment, de l'expérience qu'on a de lier l'amour spirituel et l'intelligence que j'ai de lui. La plupart des ruptures d'amitié dans le mariage et dans les amis provient qu'on ne cherche pas à croître dans l'amour. L'amour refuse la stagnation. Parce que l'amour est plus fort que toute limite. Et les limites que nous constatons dans notre amour, ça nous fait mal. Et on essaie par tous les moyens de les dépasser. Je prends un mot.